chapitre 2.
Chapitre 2.
Bonjour et bienvenue sur chapitre 2. Je suis Alice.
Et je suis Cécile.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Anne-Gaëlle Huon pour son comeback. Bonjour Anne-Gaëlle.
Bonjour à vous deux. Bonjour à tout le monde.
Anne-Gaëlle, nous sommes très heureuses d'échanger avec toi aujourd'hui pour ton retour en librairie après 3 ans d'absence. Bientôt, le 2 mai, si je ne m'abuse, il y a la sortie de ton prochain roman, Le Rossignol, dont on va parler tout à l'heure. On a très hâte de savoir un petit peu ce que tu nous réserves. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter comme tu le souhaites.
Eh bien, bonjour. Donc moi, je suis Anne-Gaëlle Huon. J'ai 39 ans. Je suis affabulatrice. J'aime bien me définir comme ça. Moi, je raconte des histoires. Les histoires qui vous emportent, c'est mon métier maintenant depuis 10 ans. J'écris des romans, notamment, c'est ça qui m'a fait connaître. Et puis, depuis 2 ans, j'écris aussi des scénarios, toujours dans cette idée d'emporter les gens dans des univers qui sont singuliers. Voilà, que vous dire d'autre ? Le Rossignol, donc, sera mon 6e roman. Et en effet, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris le chemin des librairies. Et je me réjouis vraiment, littéralement, de reprendre la route et d'aller retrouver mes lecteurs.
Ah mais nous aussi, hein, je t'assure, on se réjouit de retrouver.
What?
On a tellement hâte. Alors, 6e roman, alors je suis en train de réfléchir. Moi j'ai un côté... Ah oui, tu comptes Buzz, bien sûr.
Bien sûr. C'est vrai, je l'ai compté. Alors oui, Buzz, c'est quoi ? C'est le premier roman qui m'a mis, entre guillemets, le pied à l'étrier. C'est le premier que j'ai publié. C'est peut-être pas le premier que vous devez lire, en revanche. je suis pas certain que ce roman soit le meilleur, je le sais même. Mais en revanche, je suis très reconnaissante à ce livre-là, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu les autres. Voilà, donc en effet, je le compte. Et puis, il fait partie de mon histoire. Et voilà, c'était un caillou sur le chemin qui m'a amené jusqu'à vous. Donc, gratitude pour ce roman aussi.
Ouais, je comprends complètement. Alors, dans le même registre, pour te connaître un peu mieux, nous avons une petite rubrique qui s'appelle le tac au tac, alors que dans lequel je te donne 2 propositions. Alors, le but, c'est de répondre la première proposition qui te vient sans réfléchir trop. Donc, tu peux être étonnée toi-même par tes réponses. Est-ce que tu es prête?
Toujours.
Bon, on y va alors. Thé ou café?
Thé.
Vin ou champagne?
Champagne.
Ah, t'as hésité là, non ?
Ouais, j'aime bien un bon vin rouge avec de la viande. Moi, ça me plaît. Après, j'aime ce qu'il y a dans le champagne. Il y a un côté pétillant, il y a un côté qui parle de lien, de générosité et l'idée de fête aussi, de célébrer la fête. Et puis pour moi, le champagne, ce sera toujours le symbole des demoiselles. Un roman qui m'a beaucoup plu. Il y a quelque chose de très sororal pour moi dans l'image que j'associe au champagne. Champagne !
Ouais, et je trouve que ça te représente parfaitement, le champagne. Effectivement. Sucré ou salé?
Salé.
Ah, d'accord. Pour accompagner le champagne ou le vin rouge, voilà. C'est quand même du salé. Ok.
Ouais, un bon fromage de brebis. Mm.
Ah, voilà. C'est une connaisseuse, elle. Livre ou film?
Livre, quand même.
Elle était difficile, celle-là, un petit peu.
Oui, mais je ne regarde pas de film tous les jours. En revanche, je ne peux pas m'endormir si je n'ai pas lu au moins une demi-heure chaque jour, ça c'est sûr. Ouais.
Alors, pourquoi elle était plus difficile ? Parce que tu as passé combien de temps ? Une année dans une école de cinéma, la Fémis ?
Voilà, c'est ça. Moi, j'aime les films quand ils sont très très bien écrits. J'aime le divertissement. J'aime bien cette fine ligne qui fait les grands films qui sont pas forcément des films d'auteur, donc des films qui vont parler au plus grand nombre, qui pour autant sont écrits avec une réelle finesse, avec beaucoup d'élégance, qui fait que vous sortez de là, vous n'êtes plus la même personne. Et j'ai à cœur, moi, que les livres fassent la même chose aux gens. Et c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, avec mes livres, moi, depuis 10 ans, je me forme à l'art du scénario. J'ai commencé à écrire, j'étais à New York, et là-bas, le scénario prend beaucoup de place dans la vie des romanciers. Et donc, j'ai eu la chance, en 10 ans, de rencontrer les meilleurs scénaristes, notamment américains. Et je pense qu'il y a beaucoup de techniques qui sont utiles aux romanciers à insuffler entre les lignes de leur intrigue pour donner du corps et de l'énergie au récit pour que, exactement comme dans un film où on n'a pas envie de sortir de la salle, on n'ait pas non plus envie de reposer le livre.
D'accord. Et cette expérience à ton école de cinéma, c'est aussi pour enrichir ce côté scénario?
Oui, exactement. En fait, quand ma fille est née, moi j'ai eu 3 enfants. Et j'ai une théorie selon laquelle, à chaque fois qu'on a un enfant, énergétiquement, on se transforme un petit peu. Comme si les chaussures que vous aviez avant d'avoir un enfant, vos pieds ne rentrent plus dedans une fois que le bébé est né. Et moi, j'en ai eu 3. Et à chaque fois, les 3 enfants m'ont fait vraiment prendre une nouvelle direction dans ma vie. C'était pas volontairement, c'était pas un calcul, mais après coup, je l'ai remarqué. Et quand ma fille est née, donc la petite dernière, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans mon travail d'auteur, dans ma vie, dans ce que j'essayais de faire sur cette petite planète, qui appelait autre chose dans la forme. J'avais besoin d'étendre mon terrain de jeu. Moi, j'ai besoin de raconter des histoires, mais le papier était un moyen, mais j'avais envie qu'il y en ait d'autres. Et par ailleurs, je commençais à souffrir du fait d'écrire seul. Je trouve que c'est une partie difficile de notre métier, c'est qu'on est souvent seul. Alors, on a beaucoup de gens dans notre tête qui parlent, mais c'est quand même un métier où vous êtes assez seul. Votre éditeur accueille, bien sûr, à bras ouverts votre roman, mais vous êtes un parmi plein d'autres. Et puis, vous avez du temps avec votre éditeur, mais c'est pareil, c'est un parmi plein d'autres et ça ne remplace pas des collègues. Et donc, j'ai fait cette espèce de vœu. Je me revois dans mon lit un soir dire, bon, là, il y a un truc dans ton ventre qui est pas rond, qui tourne pas bien. Qu'est-ce qui te manque? Et je me suis dit, j'ai besoin, 1, de continuer à prendre, 2, d'avoir plus de territoire où jouer, et 3, de véritablement pouvoir avoir des collègues, des gens avec qui travailler ensemble, et puis surtout célébrer des succès ensemble. Et comme la vie est bien faite, et ben, quelques mois après, j'ai rejoint la Fémis, où j'ai travaillé pendant 1 an avec 6 autres auteurs sur l'adaptation de leurs livres au cinéma. Et en parallèle, j'ai rencontré des co-scénaristes avec qui j'ai commencé à écrire des séries. Voilà. Donc ça, c'est trop chouette. Et c'est la magie de la vie, c'est que parfois on a un talent, mais il faut pas oublier que on se lasse aussi des choses. Et moi, je suis incapable d'écrire sans y mettre tout mon corps, toute mon envie, toute mon énergie. Oui, c'est mon travail et oui, j'ai besoin de publier des livres pour en vivre, mais ça ne peut pas être la seule raison pour laquelle je publie. Et donc, je me suis dit, il faut que je me mette dans une situation où je ne publie que des livres que quand il y a un sujet ou une histoire qui me dépasse, qui m'explose dans le cœur, dans la tête. Voilà. Et si ça fait pas ce niveau-là, si même c'est juste au niveau juste en dessous, eh ben non. Voilà. Donc, comme j'avais besoin d'être complètement entière dans ce que j'écrivais, j'avais besoin aussi que les autres histoires puissent aller ailleurs pour s'écrire. Ça vous parle ce que je dis?
T'es passionnante.
Ouais, c'est clair.
En tout cas, oui, on peut t'écouter des heures, il n'y a pas de problème. Bon, la prochaine, du coup, elle va être dure. Roman ou scénario?
Roman. Roman quand même. Roman toujours. Roman jusqu'à la fin. Je pense que même quand je serai une vieille dame à l'EHPAD, je m'imagine bien avec un petit cahier, parce que je suis sûre que d'ici là, il y aura, j'en sais rien, moi, des ordinateurs, il y aura 1000 personnes qui écriront des livres bien mieux que moi. Mais j'espère qu'il y aura toujours un petit papy à peu près lucide qui sera capable de lire la petite histoire que je lui tendrai. jusqu'à la fin, ouais, moi, depuis que je suis petite, j'écrirai toujours, quoi. J'ai une approche un peu perchée, quoi, un peu ésotérique du fait d'écrire. J'ai l'impression vraiment qu'on est un peu des canaux, quoi, comme des transistors. C'est pour ça que il y a de la place pour tous les auteurs et c'est pour ça qu'on doit tous vraiment se serrer les coudes. C'est que on est tous des petits transistors et puis, j'ai l'impression que les écrivains, ils ont un peu une antenne qui est un chouïa mieux réglé peut-être que d'autres ou différemment. Je pense que les acteurs aussi sont des petits transistors. Enfin, tous ces gens qui font de l'art et qui font transiter des choses à travers eux captent des histoires qui flottent ici et là. Et ben moi, voilà, mon transistor est complètement ouvert et j'accueille les histoires qui me sont envoyées. Même si, comme c'est le cas du roman à venir dont on parlera peut-être tout à l'heure, sur le coup, parfois on est un peu on est un peu déstabilisé par ce qui nous vient, parce que l'histoire qui s'invite chez nous est pas toujours celle qu'on attendait. Et ça, c'est la magie de la chose. Donc, j'espère toute ma vie m'émerveiller et avoir des histoires à vous raconter.
Ah, moi, j'espère aussi.
Ouais, j'espère aussi.
En tout cas, en tant que lectrice, oui.
Ouais, c'est ça.
Bon, la prochaine n'est pas plus facile. Sud-est ou sud-ouest?
Oh, ça, c'est dur. Oh, ça, c'est dur. Déjà, c'est le sud. Ça, c'est sûr.
Oui, là, on reste.
Je dis ça, mais le prochain roman, encore, faut y revenir. Je suis assez douée en promo. Je sais pas si vous voyez le truc ou pas. À chaque question, j'arrive à vous recaser le rossignol.
Oui, mais t'inquiète, on va en parler longuement après. Il n'y a pas de souci. C'est normal. C'est le but. C'est pour ça qu'on est là aussi. Ouais. Hein. Le prochain, c'est pas le sud? Si, quand même.
Et non, justement, c'est ça qui est intriguant. C'est que c'est le
nord. Je suis
choquée. Moi aussi, j'étais choquée. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans de m'écrire. J'étais un peu paumée, tu vois. Quand je me suis dit qu'il allait me falloir un bonnet, 2 moufles et 4 doudounes pour aller travailler sur mon livre, j'étais un peu perdue.
Ah ouais. Alors
moi, je suis née à Toulon. Ma grand-mère qui m'a élevée habitait à Toulon. Et donc, mon cœur bat là-bas beaucoup plus fort. Il y a quelque chose dans les odeurs, dans les sensations, dans la lumière même, qui, quand je suis là-bas, me fait me sentir à ma place, me ramène dans cette espèce de pays sacré qui est celui de l'enfance, qui est aussi celui dans lequel on écrit. Et puis bah, le sud-ouest, c'est celui d'une plus d'une maturité, c'est du côté de ma mère, c'est là où je vais avec mes enfants tous les étés. Il y a quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus sauvage au Pays Basque qui me ressemble aussi, qui est la façade peut-être moins joviale, moins sympathique d'Angel, plus ténébreuse, plus solitaire aussi, peut-être plus mélancolique par certains égards. Voilà, ces deux facettes de moi.
On ne peut pas choisir, en fait. Tu fais, t'as les deux en toi.
Le sud, je réponds le sud.
Le sud, t'as raison. Bon, la dernière, on va voir si tu es joueuse, Angel. Action, vérité.
Action, je suis quelqu'un d'action.
Ah, j'étais sûre, à elle, c'était vraiment la personne. Alors, c'est très simple. Il faudra que tu places un mot pendant l'interview.
Ouais.
Le mot, c'est buzz.
Oh, bah ça va, c'est facile. J'ai déjà
ah, c'est pas, ça dépend. On va faire en sorte de pas t'aider à le placer.
Ok. All right.
Bon, elle prend le challenge à fond.
Regarde, je l'écris sur un gros post-it.
Tu vois que ça. Elle le met sur sa tête en mode... C'est quoi ce jeu-là? Oui, qu'il faut deviner des mots que tu...
Ouais, t'incarnes un personnage.
Devine-tête, c'est... Ouais.
Devine-tête, c'est comme ça que t'appelles ça?
Oui, ça s'appelle comme ça. C'est un vrai jeu en plastique. Hein. Enfin, moi, j'ai toute la panoplie avec des... Mais c'est plus enfantin, c'est pour les enfants, c'est avec pommes, table, tu vois, c'est le genre de truc. Mais il y a aussi avec des personnages connus, effectivement, qui est plutôt version adulte, parce que faire deviner Bonaparte à un enfant, c'est beaucoup plus compliqué que lui faire deviner table ou pomme, par exemple.
Devine-tête,
tu sauras.
Très bien.
Bon.
On apprend des choses.
Ouais, ben voilà, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ah oui, je voulais te demander une question. Ben, mais tu l'as un peu parlé tout à l'heure. Donc, dans que je me trompe pas, le bonheur n'a pas de ride, tu parles de l'auberge de ton papa.
Oui.
Dans même les méchants rêves d'amour, tu parles du sud-est. Dans les hirondelles, tu fais référence au sud-ouest.
Les demoiselles, ouais.
Pardon, excuse-moi. Les hirondelles. Mais pour moi, c'est les deux, en fait.
Je me trompe tout le temps aussi, donc t'inquiète pas.
Ouais. Le demoiselle et puis ce que les étoiles doivent à la nuit.
Ouais.
Mais du coup, dans le prochain, tu penses à qui? Quel est ton souvenir d'enfance ou pas du tout?
Il n'y a pas forcément de souvenir d'enfance. En revanche, c'est vrai que ça part toujours d'une rencontre, quoi.
D'accord.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que les romans partent toujours d'une rencontre ou de quelqu'un ou de quelque chose qui m'a fait comme un uppercut dans le ventre, une émotion très, très forte. Et c'est cette émotion qui, moi, va me permettre de tenir pendant 2 ans d'écriture et je vais faire tout pour que je vous la restitue avec la même force qui a été la mienne quand j'ai découvert ce sujet ou cette personne ou cette histoire. Et en même temps, c'est marrant que tu poses la question, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de nous dans les livres. Alors, pour même Les méchants rêves d'amour, c'est assez littéral parce que c'est inspiré de l'histoire de ma grand-mère. Parfois, c'est plus discret. Par exemple, tu vois, Les demoiselles, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment lié à ma mère. Le côté complètement exubérant, fantasque, lumineux, ébouriffant de ces femmes, c'est ma mère, quoi, tu vois. Tu passes une semaine avec ma mère, t'as l'impression d'être avec les demoiselles, c'est...
Oh, c'est génial. Marrant.
Je pense qu'elle est chez moi, là, aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est plutôt ma mère. Ce que les étoiles doivent à la nuit, ça parle de paternité, ça parle... Voilà, ça parle du lien d'un père à une fille qu'il a pas eu l'occasion, avec laquelle il n'a pas eu l'occasion de grandir. Moi, ce personnage de Balthazar, c'est de loin mon préféré dans ce roman. Le roman, d'ailleurs, j'avais voulu l'appeler Balthazar à la base, mais ça ne disait rien à personne. Mais pour moi, c'était vraiment l'émotion que moi j'ai en repensant à ce livre-là. Et ce qui me touchait beaucoup, c'était cet homme qui cherchait sa fille. Je trouve que c'est très joli. Donc moi, il y a évidemment quelque chose avec mon père. Mes parents sont séparés quand j'étais très, très jeune. Et il y a clairement eu quelque chose de très douloureux de mon côté et du côté de mon père parce qu'on se voyait finalement très peu. Donc ça, c'est vrai que ça fait un lien avec ça. Et dans le prochain, c'est l'histoire de deux petits garçons. Et moi, j'ai deux petits garçons. Et clairement, c'est eux qui ont habité ce roman. Et c'est très marrant parce que dès le début, ils se sont attachés à ce sujet. Je suis allée faire beaucoup, beaucoup de recherches dans la baie de Somme, au nord, en Picardie. Ils sont souvent venus avec moi. Et ils ont rempli mon bureau, tu vois, de dessins d'oiseaux, d'origami. À un moment, il a été question, comme le livre parle en effet de beaucoup d'oiseaux, il m'avait dessiné une planche, les deux garçons, ils ont 9 et 11 ans, de plein d'oiseaux qui sont dans le livre, tu vois. Et je me suis dit, à un moment, putain, on pourrait carrément le mettre dans le roman pour que les gens sachent un peu de quel oiseau on parle. Finalement, on l'a pas fait, mais voilà. Ces deux garçons, là, mes deux petits bonhommes, ils sont très, très présents dans cette histoire. Ça, c'est sûr.
D'accord. Oh, c'est beau, ça donne encore plus envie de le découvrir. Et justement, je rebondis avec les petits garçons, l'enfance, pour lancer la rubrique de Cécile avec la Madeleine de Proust. Donc, c'est une rubrique qui va t'amener, Anne-Gaëlle, dans le passé, dans ton enfance. Donc, voilà. Une petite séance psy, tu vas voir. Je te laisse découvrir ça.
Voilà. Ça change tout.
C'est ça. Donc, Anne-Gaëlle, tu as 10 ans. Je vais te poser une petite série de questions et il faut vraiment répondre par le regard de cette petite fille de 10 ans et pas par l'adulte que tu es devenue. S'il y a une question qui te gêne, on switch et il n'y a pas de souci. Ça marche ?
Go.
Ok. Quelle est la personne qui a le plus marqué ton enfance et pourquoi ?
Une personne très importante pour moi, c'est ma grand-mère, évidemment, j'en parle beaucoup, à plein d'égards. Et un en particulier qui est très important pour moi, c'est que c'était la personne la plus inamovible. Moi, dans ma vie, on a beaucoup déménagé, beaucoup bougé. Il y avait beaucoup parfois d'incertitudes, beaucoup de peur aussi de ma part. Je pense que j'étais une petite fille qui a traversé des choses pas toujours très drôles dans son enfance. Et par moments, j'ai été très seule, très triste. Et elle, c'était vraiment mon port, quoi. C'était quand mon bateau traversait la tempête sur ma petite coque de noix, et ben ça me ramenait toujours vers elle. Et cette maison, elle, qu'elle avait, qui n'a jamais changé, c'est le seul endroit de ma vie où j'ai pu retourner à chaque fois en sachant qu'elle serait toujours là. C'était sa maison dans le sud de la France. Et pour moi, c'est... Vous connaissez cette expression « safe place » Cet endroit qui est... Un peu cet endroit où, quand vous êtes un peu angoissé, on vous dit mentalement d'essayer d'y revenir parce que c'est là où vous vous sentez rassuré. Et ben moi, c'était ça. Donc, c'est ma grand-mère Janine. Elle nous a quittés quand ma fille est née. Et ça a été et c'est toujours pour moi une brèche dans ma vie. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est ouvert et qui s'est pas refermé. Et je cours un peu derrière ça. D'ailleurs, vous voyez à la vidéo, photo de mon bureau, vous voyez derrière là-bas, c'est ma grand-mère. Elle est très présente. J'hésite parfois à en parler parce qu'il y a quelque chose de l'ordre presque du poncif quand on parle de la grand-mère. On a tous des grand-mères auxquelles on est attaché. Il y a un personnage presque cliché un peu qui va derrière. Et ça fait pas honneur à la singularité de la grand-mère qui était la mienne. De tout ce qu'elle avait à la fois de rire, de joie, de tout ce qu'elle transporte comme chaleur qui parfois m'a manqué. Mais c'est pas grave. Voilà, moi je l'invoque, elle est là, je suis sûre qu'elle est là aujourd'hui quand je vous parle. Voilà. Et quand elle est partie, quand on a vendu la maison, il y a quelque chose en moi qui s'est brisé. Et j'espère, alors aujourd'hui j'en ai pas les moyens, mais j'espère un jour que grâce à l'écriture de mes livres, je pourrai moi aussi m'acheter un petit havre de paix quelque part où je sais que je me séparerai jamais. Aujourd'hui, j'habite à Paris, mais je sais pas où j'habiterai demain. Cette maison, c'est la mienne aujourd'hui, mais je sais pas si ce sera la mienne demain. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai un petit bout de maison où je me dirai jusqu'à la fin de ma vie. Cet endroit-là, ces odeurs-là, cette lumière-là, ça sera un port d'attache pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'espère incarner ça pour eux, en tout cas.
C'est hyper merci. Touchant. Merci.
Ouais, franchement, merci. Autre petite question. À l'époque, c'était quoi pour toi être adulte?
Oh, wow. Elle est chouette, cette question. Elle est chouette, cette question. Je crois qu'à certains égards, moi, j'étais déjà un petit peu adulte à 10 ans dans ma tête. Et à la fois, pas du tout. J'étais une petite fille un peu précoce. Moi, j'ai eu mon bac à 15 ans. Donc, l'école, c'était un endroit où je me sentais bien parce que c'était le seul endroit dans ma vie où tout était prévisible, où les règles étaient claires et où j'étais en sécurité. Et donc, moi, j'adorais aller à l'école. Et j'aime toujours l'école. La preuve, je suis retournée à l'école de cinéma. J'ai plein de projets de retourner à l'école. C'est un endroit où je me sentais en sécurité. Les règles étaient claires. Et donc, moi, je courais, quoi. Donc, comme une fusée, je suis vraiment épanouie à l'école. Et à certains égards, je me gérais moi-même vraiment comme une adulte. On m'a jamais fait faire mes devoirs. On m'a jamais, il y a plein de choses que je gérais de moi-même. Et j'étais un peu une mère pour moi-même quand il n'y avait pas ce qu'il fallait à la maison. Donc, pour ça, je l'étais déjà. Et en même temps, j'étais une toute petite chose parce que c'est le cas parfois des gens qu'on fait passer trop vite les classes. C'est des enfants qui n'ont pas toujours la maturité. Y a des années qu'on saute, c'est le principe de sauter des classes. Et du coup, je me revois, moi j'étais toute petite, je suis pas très grande, mais à 10 ans, j'étais vraiment pas très grande. Et je me rappelle très bien arriver dans ce collège, de m'être assise à côté d'une fille, elle s'appelait Marie, je me souviens de son nom. Et la fille s'était tournée vers moi, elle m'avait dit « T'es déjà sortie avec un garçon ?» Et rien dans cette phrase ne faisait de sens pour moi. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ce qu'elle me demandait. Genre, je venais d'un collège privé hors contrat. Enfin, pas d'un collège, d'une école privée qui était très particulière. Moi, je venais à l'école avec mon chien. Il y avait beaucoup d'enfants à la fois précoces ou handicapés. C'était une école vraiment très particulière. Et on était hors du monde, quoi, dans une bulle. La directrice était passionnée de littérature. Donc, elle ne faisait que des dictées de Balzac, de Flaubert. D'ailleurs, ça s'appelait le cours Gustave Flaubert. Et c'était vraiment bizarre. Et je me rappelle avoir été téléportée à 10 ans petite chose qui avait rien connu, quoi, de rien du tout, et d'être complètement naïve là-dedans. Donc c'est joli ces âges de transition, mais c'est très difficile d'en parler correctement. D'ailleurs, je trouve, moi, c'était un vrai sujet d'aborder ça dans un roman. L'enfance, la toute petite enfance, les bébés, voilà, il y a quelque chose qui est immédiat. L'âge adulte aussi, évidemment. Et au milieu, et c'est pas seulement l'adolescence, il y a aussi ce truc de l'enfance qui change tellement tout le temps. Et pour chaque personne, un rythme différent, que c'est très difficile d'arriver à mettre le doigt et d'être juste. Et voilà. Bref. Donc, moi, pour moi, être adulte, j'ai fait un grand détour, parce que je pourrais parler pendant des heures de l'enfance, mais pour moi, être adulte, c'était avoir une maison à soi, une famille, des enfants. Et en même temps, pour moi, c'était tellement loin que je me rappelle quand je rentrais à pied toute seule de l'école, j'avais une petite discussion avec moi-même où je me disais, Angèle, on va se donner deux mots. Et ces deux mots, tu me promets que quand tu seras adulte, tu t'en souviendras encore. C'est bizarre comme truc. Comme c'est si bien. C'était la petite fille de 10 ans qui me parlait. Et donc, ces deux mots, je vous les donne, c'était arc-en-ciel et boîte de crayons de couleur. Bon, il y a une signe. Bon, voilà. Et donc, tous les jours, je me les répétais en espérant très, très fort que celles que je serai dans très longtemps ne les oublierai pas. C'est marrant, hein. Comme s'il allait avoir une brèche à un moment et que j'allais changer de dimension, j'en sais rien. Voilà. Et donc, Anne-Gaëlle, tu vois, j'ai des petits frissons en vous disant ça. J'ai pas oublié les deux mots que tu m'as confiés.
Oh, c'est trop beau.
Oh, mais Angèle, on a envie de te faire un câlin.
Ouais, c'est clair. Elle va me faire pleurer.
Tu es hyper touchante. Moi, je connaissais l'Angèle plus faux-folle, tout ça. Et ton côté touchant, je le voyais plus dans les livres. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression de découvrir une autre facette de toi. Et j'adore. Et j'ai noué les larmes, hein, franchement.
Ouais, franchement, ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter, mais je pense que la troisième question, du coup, je vais clairement pleurer. Si... Peux-tu nous raconter le souvenir que tu chéris le plus, s'il y en avait un? Un doudou que tu te gardes, même adulte.
De l'âge de 10 ans?
De l'âge de... Enfin, quand... 9, 10, quand ouais. Quand tu veux.
Fou, c'est marrant, cette question. C'est pas une réponse qui est immédiate pour moi. Mais je crois que si je peux vous rappeler d'un vrai moment de joie qui est pour moi et auquel je me connecte souvent. Donc moi, j'ai passé toutes mes vacances chez ma grand-mère et notamment l'été. Et moi, je suis née le 20 juillet, au plein cœur de l'été. Quand il fait chaud et beau. Et les anniversaires, c'est quelque chose qui est très important à la fois pour ma mère. Donc, on faisait toujours une grande fête en juin parce que j'étais pour avoir les copains. Et en juillet, j'étais souvent chez ma grand-mère. Et je me rappelle que c'était des anniversaires où il y avait beaucoup de lumière. Il n'y avait pas énormément de gens de ma famille. Il y avait mon oncle, ma tante. Et je me souviens des cigales, tu vois, de cette espèce de chaleur. Je me rappelle qu'on vivait en culotte, en maillot de bain. Et ma grand-mère m'achetait à chaque fois de la glace au cassis. La vraie glace au cassis, je sais pas si vous avez déjà mangé de la glace au cassis, c'est assez singulier comme goût, c'est un petit peu fort. Et j'ai une photo chez moi de moi avec mes cheveux complètement fous blonds et la cuillère dans la bouche. Et cette photo était prise sur le vif à l'époque où on faisait pas les photos 20 fois, donc on les prenait en une fois. Et il y a une joie dans mes yeux, il y a une légèreté, il y a une espèce de saveur totale de l'instant présent qui pour moi incarne totalement le bonheur. Voilà. Ce moment simple de l'enfance, où on est entouré des gens qu'on aime, où on mange quelque chose de doux, d'un peu sucré, et juste on prend une photo sans poser comme ça, et il y a vraiment ce truc de joie, quoi. Voilà. Et cette joie-là, je crois que le plus grand challenge quand on grandit et quand on devient adulte, quand on vieillit, j'ai l'impression, moi je vais avoir 40 ans cette année, c'est d'arriver à convoquer cette joie, à essayer de la garder. Il y a vraiment quelque chose de singulier. Moi, je vois avec ma petite qui a 3 ans, tout est joie. Et tout est éclat de rire. La moindre chose, le moindre bruit que tu fais avec ta bouche, tout est hilarant, en fait. Et en vieillissant, j'ai l'impression qu'on devient un petit peu plus avare de ces éclats de rire, de ces moments de légèreté et de joie. Et moi, c'est une vraie discussion que j'ai avec moi-même, et c'est une quête quotidienne d'essayer de forcer un peu ça et d'aller chercher cette joie partout où elle est et d'arriver à l'accueillir sans se laisser trop polluer par les soucis du quotidien. Donc, je vous souhaite, vous, ainsi qu'à tous les gens qui nous écoutent, d'arriver à aller chercher cette étincelle de joie tous les jours. Vraiment tous les jours. Parce que cette vie-là, elle a de sens que pour ces 3 minutes de joie que vous allez avoir chaque jour. Voilà. Et j'ai beaucoup de joie aujourd'hui à discuter avec vous deux. Je trouve qu'il y a un échange très humain. Donc, merci pour ça.
Merci, c'est partagé.
Merci à toi. Et il faut un peu garder son âme d'enfant, en fait. C'est garder ce côté un peu foufou, rigolo et qui s'extasie pour des petites choses de la vie. Et ouais, je te rejoins complètement.
C'est ce que tu disais. En plus, le fait d'être parent, ça le rappelle, ça aussi, souvent.
Ouais. C'est incroyable, incroyable. Et parents ou alors tonton ou marraine, pas forcément lié au fait d'accoucher. Ouais, il y a quelque chose. Enfin, les enfants sont là pour ça. Ils sont là pour nous rappeler ça, quoi. Et moi, j'en ai 3 et ça fait beaucoup parfois. Avec tout l'amour que j'ai pour eux, mais parfois ça me déborde, ouais. C'est beaucoup pour moi. Et je me dis qu'en fait, j'en ai autant, c'est aussi pour me rappeler, mais encore plus fort, quoi, qu'il faut pas s'éloigner de ce truc-là, quoi. Donc, en effet, pas perdre son âme d'enfant, en tout cas, y rester connecté le plus souvent possible, quoi.
Dernière petite question, peut-être plus légère que les 3 autres. Le plat de ton enfance.
Ah, y en a plein, hein. C'est marrant que vous posiez cette question. Y a un plat qui a une vraie force, qui convoque beaucoup d'émotions chez moi. Moi, j'allais un week-end sur deux chez mon père, comme tous les enfants de divorcés des années 80. Et je me rappelle que le moment où je devais rentrer chez moi, le dimanche soir, quand j'étais allée chez mon père, c'était toujours un moment compliqué. Parce que je me mettais dans une certaine posture, je me mettais dans une certaine condition, même mentale, pour être chez mon père, parce que c'était des règles de vie qui n'avaient rien à voir avec celles qui étaient chez ma mère. Et je me rappelle de ce moment où il y avait un sas, tu vois, de comme un aéroport, quoi, où j'arrivais chez ma mère. Et il fallait vraiment que je me remette, tu vois, dans cette espèce de costume, un peu comme une mutation, une nue même, de chez ma mère, tu vois. Et ma mère appréhendait ça, parce qu'évidemment, dès que je voyais mon père qui s'en allait au loin, je fondais en sanglots et j'étais inconsolable de le voir repartir et je savais que je le reverrais dans longtemps. Et quand on a 5 ans, 15 jours, c'est hyper long. Et ma mère, la pauvre... Je me rappelle que tous les dimanches soirs, du coup, elle mettait sa cartoon sur la 4. Vous vous souvenez de cette émission, sa cartoon? C'était Bibi Coyote, c'était Tom Tom et Jerry. Et donc, j'avais un petit plateau qui m'attendait toujours devant la télévision. Et ma mère n'avait pas une... à l'époque, elle n'avait pas trop le temps de cuisiner. Et moi, je ne mangeais rien. Il n'y avait rien qui me... Moi, j'étais très difficile. Et elle me faisait des crêpes jambon fromage surgelé. Vous voyez ou pas ce que c'est,
oui,
ces petites crêpes-là? C'est affreux. C'est hyper
horrible. Mais j'en remange à deux. J'en remange. Ouais, voilà. Alors que c'est infâme, hein. C'est
infâme. Ouais, mais quand t'as la poêle, t'arrives à bien les saisir, bien dorer, c'est scandaleux. C'est comme les crêpes waou, les douap, c'est un péché humain qui a pu inviter
ça. Ouais.
Mais une fois que tu goûtes, ça rappelle des trucs, quoi. Et donc, je me rappelle, tu vois, de ces moments où tout doucement, j'essayais de redescendre cette planète qui était celle de ma mère, de reprendre. Parce que tu vois, j'arrivais même plus à parler quand il partait, et Bibi Coyote, quoi, qui est comme le dessin animé qui tourne en rond, c'est-à-dire que t'as raté le début, t'as raté la fin, c'est pas grave, t'as quand
c'est
même
pareil, ouais.
Passe. Le mec, il court, il a une falaise, il tombe, il se prend une enclume sur la tête, paf, il repart et tout. Il y a quelque chose d'assez cyclique, tu vois. L'enfance, c'est beaucoup de cycles. C'est beaucoup de répétitions et de routines qu'on imagine inamovibles, quoi. Vraiment, il y a ce truc de, les années passent vite, mais les journées sont longues, quoi, quand c'est l'enfance. Ouais. Et donc, Bibi Coyote, c'était ça, quoi. C'était sans cesse, tous ces 15 jours, ce moment où il fallait se remettre dans la peau de chez maman. Et puis, il y avait les crêpes au fromage.
Ouais. Ça marche.
Oh, j'adore.
Merci beaucoup.
cette rubrique avec toi, c'était sensationnel. Moi, j'adore.
Ouais,
j'adore tes réponses. Je ne sais pas quoi dire parce que je suis très émue. On passe à ton actualité. Alors, nos auditeurs sont impatients de pouvoir te lire à nouveau, hein, surtout avec une petite absence en librairie, hein, de 3 ans. Et donc, tu reviens début mai avec le Rossignol, on en a parlé un petit peu. Mais tu nous as fait l'honneur de nous confier un petit extrait pour qu'on puisse découvrir le début de cette histoire. Et puis après, tu vas nous en dire un peu plus ce que tu peux nous dire. Mais tout d'abord, donc, il y a Cécile qui va nous lire donc ce petit extrait pour nous mettre dans l'ambiance de ce nouveau texte qu'on va découvrir en mai, donc le 2 mai.
Les gosses du coin ne s'y trompent pas. Il y en a toujours un pour lancer « Toto, tu nous fais le rossignol ?» Je ne me fais jamais prier bien longtemps. Faut dire que des enfants qui s'intéressent aux piafs, il n'y en a plus beaucoup. Des piafs non plus, c'est bien le drame. Avant, on les entendait chanter rien qu'en ouvrant une fenêtre. Il suffit de regarder n'importe quel film des années 50 pour s'en convaincre. Mais n'allez pas croire que je sois nostalgique ou que je m'y connaisse en cinéma. Les plus beaux films, je les ai visionnés ici, sur le grand écran de la baie. Je m'interromps parfois pour admirer une escadrille d'oies sauvages qui se détache sur l'horizon. Mon regard se perd dans l'estran et ses eaux grises tandis que le ciel de coton prend des reflets roses, oranges, mauves. Ça fait comme un bouquet de printemps. Sur le sable, parmi les dunes et les roseaux, je guette les sarcelles au cou d'émeraude et les grands hérons couleur d'ardoise, les bergeronnettes agiles et les lourds cygnes blancs. Pour que vous compreniez, il faudrait trouver les mots. Savoir dire l'enfance, l'amitié et les lumières de l'automne, les vivats de la foule et le vertige de la scène. Le voyage des âmes, la folie des grandeurs et la magie des nuits indiennes. Il faudrait aussi remettre mes souvenirs en ordre. À mon âge, ils se confondent. Il m'arrive même de me demander si je n'ai pas tout inventé. Oui, c'est une longue histoire. Une histoire d'amour. Celle d'un vieil homme qui attend le retour d'un oiseau.
Anne-Gaëlle, tu as fermé les yeux pendant que tu écoutais l'extrait.
Elle est bien, hein, elle a une très jolie voix.
Elle est géniale.
Merci. C'est une grande chance d'être lue. Une personne qui avait fait ça sur Instagram un jour, qui lisait des extraits de livres et qui vous offrait ça. Elle avait une très jolie voix, comme toi d'ailleurs. Et c'est quelque chose de mettre ses mots dans la bouche de quelqu'un d'autre, parce que moi, quand je le lis, c'est pas le même endroit où je mets les silences, parce que c'est pareil.
Bah oui.
Et donc, c'est joli d'entendre comment ça résonne dans ta tête à toi. Voilà. Donc, merci pour ce cadeau. C'est très joli.
Mais j'ai très, très hâte de le lire. Rien que les extraits que tu nous as envoyés, je te l'annonce, t'as fini.
tu nous as laissé la fin de l'extrait. Il est horrible, on veut savoir ce qui se passe.
Ouais, c'est clair.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce nouveau roman, Le Rossignol, qui sort le 2 mai?
Oui, tout à fait. Eh bien, ce roman, c'est l'histoire de deux petits garçons. Un qui habite en Baie-de-Somme, qui a 9 ans, et dont le rêve est de gagner le championnat d'imitation des chants d'oiseaux, qui a lieu chaque année en Baie-de-Somme. C'est quelque chose qui existe vraiment. La Baie-de-Somme, c'est donc une région qui est au nord, en Picardie, et qui est très connue parce que c'est une halte pour tous les oiseaux migrateurs qui viennent du nord ou alors qui remontent du sud. Et il y a une diversité ornithologique là-bas qui est incroyable. Et les gens qui habitent là-bas sont évidemment très, très liés aux oiseaux. Et il y en a beaucoup là-bas, on les appelle les siffleux, qui sont capables d'imiter des dizaines et des dizaines de chants d'oiseaux, au point qu'ils arrivent même à communiquer avec les oiseaux. Ouais. Et donc ce petit garçon, qui s'appelle Tony, a un papa qui est lui-même champion de siffleux, donc qui imite parfaitement les oiseaux. Et pour l'impressionner, pour que son père le revoie enfin et le regarde, il décide lui-même de devenir champion pour la première fois et de participer à ce concours. Et donc il s'entraîne sans relâche, il est extrêmement doué. Jusqu'à ce qu'un jour arrive dans sa classe un petit nouveau qui s'appelle Louis, qui est parisien, qui arrive de la ville, qui n'y connaît rien aux oiseaux et qui va vouloir devenir son ami. Et encore plus que devenir son ami, il va vouloir que Tony l'initie au dialogue avec les oiseaux. Et donc cette histoire, en fait, c'est une histoire d'amitié, d'amitié profonde qui va unir ces deux petits garçons qu'on retrouve 20 ans plus tard. L'un d'eux est devenu une star, je vous dirai pas lequel, et il va avoir besoin de cet ami qui était le sien quand il était enfant et à qui il ne parle plus. On comprend que quelque chose de dramatique s'est passé entre eux, au point que les deux sont séparés par une haine totale, une haine qui va jusqu'à la mort presque, à la rage, et qui pourtant, ces deux-là, vont à nouveau se rapprocher. Voilà.
Oh là là, j'en ai frisson.
J'ai trop hâte, ouais. C'est long le 2 mai. C'est demain, mais c'est long.
On y est presque.
Ouais. C'est rien que le t'entendre... En parler, c'est j'ai l'impression que c'est, il est complètement différent de ce que tu nous racontes. Je sais pas si c'est juste une impression. Déjà, tu parles de garçons, c'est une amitié. J'ai l'impression qu'il est différent de tes autres romans.
Des précédents? Oui, alors je crois qu'ils sont tous singuliers. Moi, j'ai à cœur vraiment à chaque roman de me surprendre, tu vois, et d'aller dans un endroit où je suis jamais allée. Il y a quelque chose de l'ordre presque de l'expédition, tu vois. C'est comme un territoire inconnu qu'il faut aller voir. Aussi pour surprendre le lecteur et même pour moi, tu vois, de façon assez égoïste d'écrire des choses qui me passionnent parce qu'il y a toujours des recherches à faire. Et donc pour ça, il faut aller chercher des sujets qui sont parfois différents. Et celui-là en est un, tu vois. Il y a un territoire, il y a quelque chose dans le décor qui est un peu étrange. Dans cette idée aussi qu'il y ait des hommes sur Terre qui parlent aux oiseaux. Moi, cette idée-là m'a bouleversée. J'ai trouvé ça très poétique. Et puis en même temps, j'avais envie de parler d'amitié. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui parlent d'amour. Il y a des très jolies romances, mais des romances amicales, il y en a moins. Alors, on a tous en tête évidemment L'ami prodigieuse, qui est une très belle histoire d'amitié. Il y en a quelques autres comme ça qu'on pourrait citer. Mais moi, c'était ça que j'avais envie. Enfin, en tout cas, c'est ça qui s'est imposé à moi. C'est qu'est-ce qui reste quand on est adulte de l'enfant qu'on a été, et qu'est-ce qui reste des promesses qu'on s'est faites à soi-même. C'est drôle parce qu'il y a un écho aussi joli avec les questions que vous avez posées tout à l'heure, tu vois, de moi qui ai fait promettre de... Souviens-toi, Anne-Gaëlle, que quand t'étais enfant, je t'ai confié des mots. C'est marrant, ouais, en plus de se confier des
génial.
Mots, ça sert à rien. Puis j'ai pas choisi des mots particulièrement philosophiques, tu vois, j'aurais pu choisir, je sais même pas quoi, tu vois, des trucs compliqués, quoi. Juste comme si je m'étais confié un petit bout d'enfance, tu vois, les crayons de couleur, l'arc-en-ciel, il y a de la joie aussi, de la couleur. Voilà, il y a des promesses qu'on se fait et on est rare, c'est rare. Et on est peu à arriver à les tenir. Parfois, on aimerait, mais c'est compliqué. Et puis, moi, j'avais envie de montrer que bah, parfois, c'est possible. Et donc, ces deux gamins se font des promesses. Et par certains égards, ils arrivent à les tenir. Donc ça m'a touchée. Les oiseaux, alors c'est drôle parce que tu sais, dans les livres, on rentre toujours par un angle. Ça marche souvent comme ça, tu vois. Les Demoiselles, c'est un livre sur les espadrilles. La vérité, c'est que à la fin du livre, tu sais pas coudre une espadrille, tu vois. T'as appris des choses sur l'espadrille. Mais le truc qui a fait que tu restes jusqu'au bout, c'est l'histoire de ce personnage, c'est les fêlures de cette Rosa qui d'enfant un peu mal à l'aise, va s'affranchir de ça et écrire sa propre féminité, écrire son destin. Et ça, c'est universel. Et donc, moi, là, c'est un livre sur les oiseaux, mais évidemment que l'histoire universelle qui est là, elle pourrait se passer en Camargue, elle pourrait se passer chez Alice vers Toulouse. Enfin, tu vois, c'est une couleur, c'est comme un dessin, et après, tu le colories avec un décor. Moi, j'ai choisi ce décor-là parce que il y avait quelque chose d'un peu éphémère dans ces oiseaux, dans la nature. Il y a quelque chose derrière que j'ai envie de donner au monde. Mais dans l'histoire de ces garçons, en fait, ce roman parle surtout de l'amitié et de l'enfance. Voilà.
C'est quoi ton truc avec les oiseaux, du coup? Parce que...
Écoute, moi, j'ai rien de particulier avec les oiseaux. Alors après, tu vois, là, dans mon bureau,
t'es entouré d'oiseaux.
Partout, ouais. C'est une symbolique assez jolie, hein, l'oiseau. Je pense que même aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans ce monde, qui est un monde vraiment de frontières, de silos, où on vit tous dans des vases très, très hermétiques, tu vois. Et l'oiseau, c'est quand même le seul animal qui s'affranchit de tout ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la liberté. Les oiseaux, c'est une espèce qui est composée de plein de races, tu vois. Il y a des oiseaux, enfin, il n'y a rien en commun entre un cygne et un moineau. Enfin, tu vois, par le fait qu'ils aient des ailes, il y a quelque chose de...
Ouais.
Et pour autant, quelque chose, moi, que j'ai découvert, c'est que les oiseaux, entre eux, donc, n'ont pas du tout les mêmes chants. Tu vois, je sais pas, moi, deux merles qui vont chanter, ils vont vraiment se reconnaître, puis ils vont limite même pas entendre les deux rouges-gorges qui passent à côté, ou en tout cas, ils vont pas y faire attention. Et pour autant, il y a deux choses intéressantes. C'est un, le rossignol, c'est le seul oiseau qui imite les autres. Donc, il est capable d'entendre le chant, par exemple, d'un merle et de l'imiter et donc de le reproduire, comme s'il rentrait en connexion avec lui, tu vois, qui est un peu.
C'est génial.
Voilà, ce qui est joli, c'est un peu ce que fait un romancier quand il essaie de partager des émotions. Il se met à votre niveau pour que cette émotion, elle infuse chez vous exactement dans mon cœur comme ça va résonner dans le vôtre, enfin, j'espère. Et puis, il y a un autre truc que j'ai découvert, c'est que quand il y a un danger, par exemple, tu vois, un chat qui va se promener dans un jardin, et ben, il y a un cri de ralliement qu'un oiseau va faire immédiatement dès qu'il le voit. Qui a un son très, très, très aigu. Et tous les oiseaux ont le même. Donc, dans le danger, dans l'adversité, il y a un cri universel qui est celui pour prévenir les autres. Et je trouve ça merveilleux. Et je pense que notre humanité n'a pas encore trouvé son cri universel. Et peut-être, je ne sais pas vers quoi on va, mais il y a peut-être quelque chose chez les oiseaux qu'il faut qu'on entende, tu vois. Il y a peut-être un moment où il va nous falloir à nous, à tous, un cri universel pour se prémunir de l'adversité. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc ça me plaît. Les oiseaux par ailleurs, en voie d'extinction. Il y a 1 million et des millions d'oiseaux qui disparaissent chaque année à cause de l'agriculture intensive, etc. Et on prend le risque qu'un jour, le printemps se lève en silence. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'oiseaux qui chantent. Et ce côté éphémère, qui est aussi nous, notre statut d'humain, il y a quelque chose de très éphémère au fait d'être humain sur cette planète en péril, que j'ai trouvé extrêmement poétique. Voilà. Donc dans tout ça, dans l'aspect à la fois peut-être plus sombre, mais aussi très lumineux, de cet oiseau qui s'envole et qui tout à coup n'appartient plus à personne et va où il veut, qui moi m'a porté en tout cas dans l'écriture de ce livre.
C'est hyper philosophique quand même. Waouh.
Il y a quelque chose. Ouais, il y a plusieurs niveaux de lecture. Après, chacun prend l'histoire pour ce qu'elle est, mais la Bête Somme aussi, c'est pour ceux qui connaissent peut-être, c'est la mer qui rentre plusieurs fois par jour avec la marée dans ce creux de terre là. Et à chaque fois qu'elle rentre, elle y dépose du sable. Et donc, peu à peu, la mer recule, et bientôt, la Bête Somme n'existera plus. C'est-à-dire que la mer ne rentre. Donc, c'est pareil. C'est un lieu qui est éphémère. Il y en a des lieux comme ça. On pense à Venise, il y en a quelques autres sur Terre. Voilà. Et tout ce qui est éphémère est fragile et doit être savouré. Et donc, dans l'amitié aussi, dans l'enfance, il y a quelque chose évidemment d'éphémère et de fragile. Et voilà. Tout ça fait du sens pour moi, en tout cas. Ça marche ensemble, quoi.
Et dans ton rapport à l'écriture, comme ça, t'as toujours voulu écrire? T'as eu un déclic? Son premier roman, on disait tout à l'heure, donc tu l'as écrit aux États-Unis.
Premier roman, oui, Buzz.
Il fallait lui dire. Elle a réussi son défi, bravo.
C'était une perche tendue.
Tu l'as trop aidée.
Mon Dieu, je vais me détendre là, parce que je suis stressée. Oui, le premier, je l'ai écrit aux États-Unis quand je suis partie vivre à New York. J'avais enfin un peu de temps pour moi parce qu'avant je travaillais en entreprise, comme beaucoup de gens très sympathiques d'ailleurs. Et j'ai eu du temps parce que j'attendais mon permis de travail, qui aux États-Unis est indispensable pour travailler. Et comme j'avais quelques heures par jour, je suis allée écrire une idée, quelque chose qui me venait, et c'est comme ça que je me suis mise à écrire. Mais moi, j'avais toujours écrit depuis que je suis petite des poèmes de déclaration d'amour à ma grand-mère. des histoires rigolotes pour mes amis. Et puis, plus tardivement, je faisais aussi des ateliers d'écriture le soir après le boulot pour m'amuser avec mes copines. Voilà. Donc, il y a toujours, l'écriture a toujours une place dans ma vie. En revanche, moi, je viens pas d'un milieu où on est écrivain. Je viens même pas d'un milieu où on peut rêver être écrivain. C'est-à-dire que je crois que chaque famille a, mais presque à un plafond au rêve qu'il donne aux gens de sa famille. Voilà. Moi, dans ma famille, on pouvait faire plein de choses, tout va bien, mais bon, c'est vrai que l'art, ça nourrit pas, quand même, hein. Et donc, voilà. Donc, c'était pas du tout une option, mais alors, je le vivais sans frustration, il y avait aucune colère en moi. Enfin, tu vois, j'adorais mon taf, je travaillais en entreprise, j'étais en marketing, je travaillais dans les médias, c'était très créatif. J'étais hyper épanouie, j'avais des collègues super sympas, enfin, tout allait bien, merci, tu vois. Donc, j'écrivais pour me faire plaisir, et à côté, voilà. Et quand s'est présenté cette opportunité d'auto-publier ce livre, qui était l'occasion pour mes amis qui étaient en France et tout ça, de continuer à me lire, j'avais aussi un blog où je leur racontais mes aventures à New York. Bon, bah, je l'ai fait. Et ça a pris un tour immédiat, assez dingue. Enfin, tu vois, tout à coup, c'était pas si compliqué que ça, en fait, de devenir écrivain. Et moi, c'est pour ça que je me suis auto-publiée. C'est aussi parce que ça me serait jamais venu à l'idée d'envoyer un manuscrit à des éditeurs, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui aussi, pardon, tu vois, ça fait un peu boomer de dire ça, mais moi, c'était, mon fils, ouais, c'était il y a 10 ans, tu vois. Et il y a 10 ans, bah, il y avait moins Instagram, il y avait moins ce truc où tu peux rentrer en contact avec plein d'écrivains qui te donnent leurs conseils sur comment il faut être publié. Je suis jamais allée en quête de ça, en tout cas. J'étais jamais allée sur un salon littéraire, tu vois. Et je lisais des tonnes et des tonnes de livres. Moi, j'ai toujours lu, c'est comme ça que je tiens debout. Donc, j'étais une immense lectrice. Jamais j'ai mis les pieds dans un salon littéraire. Enfin, tu vois, c'était pas mon univers, celui de l'édition. Je sais même pas si c'est le mien d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, tu vois, on est publié, mais voilà, c'est parce que c'est un moyen pour moi d'arriver à vous. Mais voilà. Donc, c'était pas prémédité. C'était pas quelque chose qui était un projet dans ma vie. Et c'est ça qui est beau. C'est que parfois, la vie a des projets quand nous n'en avons pas.
C'est toujours si beau ce que tu dis.
Et t'as une routine,
Est-ce que j'ai une routine? Non. Je suis pas très forte en routine. De façon générale, je suis pas très douée pour m'astreindre à des choses. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup pour le plaisir. Donc, je vais là où j'ai envie d'être. J'aime bien jouer, m'amuser. Et donc, ce truc très, très rigoureux qui veut que tous les matins à 8h30, tu t'assois à ton bureau et t'écris 1000 mots, ça marche pas trop avec moi. En revanche, moi, là où j'ai une routine, c'est que tous les jours, j'essaie de faire quelque chose qui me sorte de mon quotidien. Donc ça va être quand on me propose des trucs farfelus, de toujours dire oui, d'essayer au maximum de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec moi, que ce soit par des voyages, que ce soit voilà, il y a toujours des opportunités. Et c'est comme ça, tu vois, que le nez au vent, moi je vais essayer de dénicher le prochain sujet du roman et de voir ce qui m'emporte. Mais comme il y a un niveau d'exigence qui est assez haut sur à quel point il faut que ça me bouleverse, à quel point il faut que ça me transporte, c'est pas tous les jours que tu tombes sur un os à ronger, quoi. Donc ma seule routine, c'est celle-ci, c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller me promener, d'aller visiter des trucs, de vivre des expériences un peu étranges. Ça me plaît. Voilà, parce que ça c'est un style de la joie en moi, et c'est la joie qui me permet d'écrire. La joie et l'émotion que j'ai de parfois rentrer en contact avec des gens et de voir tout ce qui est beau en eux, en fait, toute leur fragilité.
D'accord.
Et puis bah ça me prend peut-être, moi je sais pas, 80% de mon temps, tu vois. Donc spontanément, pour avoir l'impression que je fais pas grand chose, alors qu'en fait ça prend beaucoup d'énergie de se promener le nez au vent. Et puis parfois poum, tu vois, ça accroche. Et donc là, bah moi je vais commencer à essayer de mettre cette idée là sous forme d'intrigue, et c'est là où le cerveau analytique prend le relais. C'est bon, là, attends, il y a cette émotion hyper précieuse, on va la garder vraiment très précieusement, mais il va falloir la façonner pour qu'elle puisse arriver chez vous de façon digeste. Exactement comme un grand chef quand il va tomber sur une belle pièce de bœuf, tu vois. Il va falloir la travailler, faire la saisonner, la cuisiner, la mettre ensemble pour que ça devienne un plat gastronomique. Et ben moi, c'est ça. Et donc, je vais travailler là-dessus pour arriver avec la forme scénaristique que moi, je pense être efficace et qui correspond à ce que j'ai envie d'écrire, à faire un casting de personnages. Toi, t'as le droit de rentrer. Toi, faut que t'arrives là. Voilà à quoi toi, tu vas servir. Mais pourquoi? Discuter de façon un peu mystique avec ces personnages, savoir ce qu'ils ont à nous dire de singulier pour qu'ils soient uniques. Et puis ensuite, de construire l'architecture du récit. Tu vois, là, à ma droite, je sais pas si tu vois, il y a un grand mur. Il y a plein de tout petits post-it, tu vois, avec des numéros. Et ça, c'est comme le chemin de fer de mon roman. Ouais. Ça, c'est le chemin de fer, tu vois, du Rossignol. Alors, j'ai tout enlevé maintenant parce que j'en ai plus besoin. Et tu vois, après, je vais mettre des post-it comme ça, et c'est les scènes. Donc, toutes les scènes, je vais les écrire une à une. Et je sais, bah, tu vois, qu'à ce moment-là, alors, Tony rencontre Louis. Alors, attends, est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là? Alors, cette information, est-ce que le lecteur, il a besoin de la voir dès le début? Ou est-ce que, tiens, putain, je peux peut-être la garder pour la fin? Parce qu'en fait, il y a des choses, parfois, tu sais, il y a des choses quand tu rencontres quelqu'un, on te dit pas tout de suite Les gens, ils te disent pas tout de suite le truc fondateur de leur histoire, tu vois. Ils te disent pas ce qui fait que eux, ils laissent passer la lumière, qu'il y a des petites failles chez eux. Ils disent tout d'ailleurs, sauf l'essentiel, souvent quand tu rencontres les gens. Voilà, et ça, quand t'écris une histoire, t'as tendance à vouloir tout de suite dire les trucs qui sont hyper importants sur ton personnage, aussi parce que c'est rassurant, parce que tu dis comme ça, alors le lecteur a bien compris ce que je voulais dire, vous comprendrez ce que je veux dire quand vous lirez le Rossignol. Et parfois, les gens, quand ils se présentent, le truc, l'éléphant dans la pièce, ils te le disent pas tout de suite. Et tu comprends qu'il y a des trucs chelous, parfois il se déplace un peu bizarre dans la pièce, t'es là, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait qu'il la traverse pas, qu'il fait le tour? Voilà. Et ça, c'est le jeu, tu vois, de déplacer les scènes, enlever celles qui sont pas indispensables. Moi, je prends pas de détours. J'aime pas les longueurs. Donc, chaque scène a un sens, chaque mot a une utilité. Et donc, ce truc-là, tu vois, ça m'aide à construire. Donc ça, par contre, une fois que je rentre là-dedans, ça me fait tellement plaisir de faire ça qu'en effet, ma routine, c'est je dépose les enfants à l'école. Enfin, c'est mon mari qui le fait, moi, je les habille. Et ensuite, je me mets à mon bureau, je suis là pour personne et je joue avec mes post-it, je travaille sur l'architecture. Ensuite, je fais un plan qui est une espèce de résumé de l'histoire. Chaque chapitre, potentiellement, c'est une phrase, tu vois, une phrase que j'aurais écrite sur mon truc. Et puis, peu à peu, je vais étoffer chacune des phrases et au fur et à mesure, je vais épaissir chaque partie de l'histoire. Et donc après, quand je suis en écriture, là, c'est des grosses journées d'écriture parce que c'est passionnant. Quand t'es dans le truc, c'est vraiment passionnant. C'est comme descendre une côte à vélo, tu vois. Une fois que tu l'as montée, la descente, c'est que du kiff. Et donc là, moi, en général, ce que je fais, c'est que j'ai un petit planning. Tu vois, j'écris un ou deux chapitres par jour. Le matin, je relis ce que j'ai écrit la veille. Ça me permet de m'échauffer, de remettre le muscle en marche. Je réécris, j'approfondis. Et puis l'après-midi, j'ai un planning. Aujourd'hui, t'écris le chapitre 37. Voilà ce qui se passe. T'écris dedans. Enfin, voilà. En général, ça se passe comme ça. En tout cas, pour le Rossignol, ça a été très long à mettre en place, mais une fois que j'ai trouvé ce truc-là, ça a été très rapide à écrire parce que tout était dans ma tête, quoi. Mais ça prend beaucoup de temps à faire. On peut le faire en moins de temps, mais du coup, c'est moins satisfaisant, tu vois. C'est comme un pulse, quoi. Quand t'as vraiment pris le temps de faire un truc avec beaucoup de pièces et que le truc arrive à un moment à être dans la forme que t'as essayé de faire, c'est beaucoup plus gratifiant. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle moi je m'offre la liberté de pas faire un livre par an, c'est qu'il y a certains livres qui méritent qu'on prenne plus de temps pour les écrire bien, quoi. Voilà.
Et est-ce que justement le fait d'avoir travaillé sur les scénarios et tout ça dans ce livre justement, est-ce que ça t'a donné, j'ai cru comprendre un petit peu, une autre façon d'aborder le sujet, de le raconter peut-être?
Oui, tout à fait. On en revient à l'histoire de construction que je te disais avant.
Oui, tout à fait.
Comment on fait pour que l'histoire démarre vite, c'est-à-dire que rapidement tu sois plongé dans l'histoire? Quels éléments j'ai besoin de te donner sur le personnage? À quel point tu vas pouvoir suivre toi l'évolution de ce personnage et comprendre d'où il vient? Moi, il y a deux temporalités, c'est ce que je vous expliquais dans l'histoire. Il y a l'histoire de ces deux petits garçons et puis il y a aussi ce qu'ils sont devenus adultes. Donc une idée aurait pu être, d'abord je te raconte l'enfance, puis après je fais un cut, deuxième acte, on passe à l'âge adulte. C'était une option, j'avais commencé à l'écrire comme ça. Et puis après en me disant attends, on peut faire encore mieux. Vu que c'est un jeu d'écho, c'est essayer de glisser dans le récit de l'enfant des moments où c'est l'adulte qui te parle. Et ça, c'est pas facile à faire parce qu'il faut bien choisir les scènes. Moi, j'aime les chapitres courts, donc il faut pas que ça mette 20 ans pour que tu comprennes où il en est. Il faut que t'arrives à suivre. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui s'y perdront. Moi, je pense quand même que c'est accessible, hein. Mais voilà. Et ça prend du temps un peu de monter la mayonnaise. À quel endroit je le mets et pourquoi là et pas là. Et oui. Et ça, c'est vrai que d'avoir travaillé sur le scénario, ça implique beaucoup d'exigences. Le temps du cinéma est un temps qui est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que chaque minute à l'écran vaut une fortune. Tu vois bien, il faut payer le mec qui fait la lumière, les décors, la maquilleuse et tout. Donc, chaque scène a un sens. Enfin, tu vois, alors après, quand t'as un réalisateur hyper connu, tu peux te permettre d'avoir des longueurs. Mais un vrai film, normalement, c'est 1h30, 90 minutes. Il faut que tu fasses tenir le truc. Et moi, j'essaie de m'astreindre à ça. Aussi avec les romans. Il n'y a rien en trop, j'espère. Vous me direz.
Je pense pas. J'ai jamais vu de longueur dans les romans. Je ne pense pas du tout. mais du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais aussi des scénarios. T'en as créé là, dernièrement, des scénarios pour des films,
oui,
ou des séries?
J'ai créé une série, alors qui a rien à voir avec un roman. C'est-à-dire que ce sera pas un roman et ça vient pas d'un roman. C'est pas une adaptation, c'est une création originale. Okay. Dont je peux pas parler parce que c'est en cours. On l'a vendu et puis on espère que les Américains vont en faire un truc de malade mental.
Un truc américain en plus. Oh,
Donc ça c'est chouette, tu vois, c'est rigolo aussi parce que moi alors pour le coup ça on écrit en anglais, mais moi je pourrais pas écrire un roman en anglais, ça demande beaucoup trop de nuances dans ce que moi j'essaie de dire, le mot, le rythme, enfin tu vois. Vous voyez très bien parce que vous êtes des lectrices, donc vous comprenez. Un scénario c'est moins ça parce que à part dans les dialogues où il faut de la finesse, dans l'action quand même tu peux t'en sortir. Et donc c'est chouette aussi ça d'avoir un territoire où jouer qui est pas le même que celui qui est d'habitude. Voilà. Donc ça pour l'instant je peux malheureusement pas en parler
bien
trop.
Sûr.
Mais c'est très excitant. C'est très excitant aussi.
Ah oui, mais en fait, pendant 3 ans, t'as pas chômé du tout. Au contraire, tu nous as...
Ah non, c'est sûr.
Ouais.
On continue toujours. Ouais.
Ah bah ouais, non mais là, donc là, sortie de Rossignol le 2 mai, et ensuite j'imagine que tu vas partir en tournée, comme disent les artistes.
Ouais, absolument, ça commence même avant la sortie, on va faire une dédicace en avant-première à Montaigu, qui est un salon dans le
Nord-Ouest. D'accord, oui.
Voilà, où on aura l'occasion de revoir les lecteurs, et puis bah, bien sûr, après je vais aller faire un tour, je vais aller... Voilà, partout Limoges, en Vannes, je vais aller pas mal dans le sud-ouest cet été, évidemment, sur la côte, dans les terres. Je vais essayer de faire un petit tour aussi en Provence. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de dates. Il va falloir s'accrocher parce que c'est fatigant.
Ah, oui.
Donc, faut bien, tu vois, là, moi, ça fait 3 ans que je l'ai pas fait, donc je me propose de le faire à fond. Mais c'est quelque chose qui est fatigant pour les auteurs. Alors, c'est quelque chose qu'on dit rarement, mais, c'est fatigant. Enfin, tu vois, tu te lèves à 6 heures du mat. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai un mari qui voyage beaucoup, qui a un gros job. Donc, il faut se débrouiller pour faire garder les enfants, pour machin, pour truc. Donc, c'est un effort. Et en même temps, une fois que tu y es, c'est un cadeau incroyable, quoi. De revoir les gens. Alors, pas tout le monde, hein. Enfin, tu vois, faut pas non plus être béni. Oui, oui, tu vois, il y a des gens, c'est vrai. Ils vont te demander un autographe. Ils te disent pas un mot. Bon, bah, très bien. Je suis contente de vous avoir vu. Merci d'être là. C'est pas pourquoi. Il y en a toujours qui va trouver les mots pour te dire ce qu'il a ressenti en lisant ton livre. Et ça vaut toutes les psychanalyses, tu vois, on a parlé, moi c'est déjà arrivé que quelqu'un vienne et me dit « Alors, j'ai lu tous vos livres, et alors moi, ce que j'ai compris, comme s'il reliait les points, tu sais, comme les jeux d'enfants là, 1, 2, 3, 4, 5, et à la fin, ça fait un poussin, tu vois. » Et ben là, cette personne-là, je me souviens très bien, alors je pourrais pas te dire exactement ce qu'elle m'a dit, mais dans les phrases, 10 ans de psychanalyse, quoi. Et c'est marrant, tu vois, et t'as vraiment l'impression que cette personne, elle te voit pour ce que t'es, pas pour l'espèce de fanfaron que t'es sur Instagram, ou pas pour la personne que tu montres en dédicace, hyper souriant, bonjour, ça va, je suis contente de voir et tout, et juste, elle m'a scotché, quoi. Il y en a comme ça, tu vois, il y en a à chaque date, donc une espèce d'attente, d'impatience pour moi, de je sais que ces personnes-là, elles sont là-bas, que je vais les voir, alors sur 200, et ben c'est peut-être 3, tu vois, mais c'est 3 qui vont te bouleverser, et rien que pour elles, ça valait le coup de s'organiser, de traverser la France. Donc, je me réjouis de retrouver les lecteurs, et notamment ceux-là, qui je sais, font toute la différence. Et puis, voilà. C'est très chouette.
On t'attend dans le sud-ouest, hein. Voilà. Donc, à Bordeaux, hein. Je t'ai dit, il faut que tu viennes à Bordeaux.
Ouais.
Cécile, elle est plus bas.
Au sud.
T'es où, toi, Cécile?
Pays basque.
Eh ben, on va essayer de se croiser quand même cet été. On va essayer de se voir. Ah, ça sera chouette.
On est tous pas loin de Angèle l'été. Alors aussi, une particularité qui te caractérise, et je voudrais terminer par là, c'est les dédicaces sauvages que tu fais dans les librairies.
Ah, mais j'adore.
Et j'adore.
J'ai jamais chopé un livre, mais j'adore. Ah ouais, c'est trop bien.
Ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est chouette. Je sais pas pourquoi j'en suis venue à faire ça. Ah ouais, je sais aussi, si, je sais. C'est parce qu'en fait, je fais très peu de dédicaces à Paris. Paradoxalement, les Parisiens sont souvent les moins bien servis en termes de dédicaces.
D'accord.
Et donc, je trouve ça cool parce que moi, je fais toutes les gares, tu vois. Là, je fais Gare de l'Est, Gare de Lyon, machin. Il y a souvent un livre. Et donc, je trouve ça cool de laisser un petit mot. Alors maintenant, avec Instagram, c'est chouette parce que souvent, les gens vont les chercher et je sais à qui ils vont. Mais j'aime bien l'idée aussi qu'il y ait des gens qui tombent dessus, tu vois, qui achètent le livre par hasard et qui trouvent un mot dedans. Je suis certaine que les gens se disent que c'est pas vraiment l'auteur qui l'a fait, tu vois, que c'est une espèce de faux machin. Et ça me fait marrer, voilà. Je trouve que c'est spontané.
Je trouve ça génial, surtout pour les personnes qui vont pas à un salon, comme tu disais, qui vont pas prendre le temps d'aller à une dédicace, parce que en fait ils ont un mot de toi et c'est super. Je pense que ça donnait envie à tous nos auditeurs de découvrir ton prochain roman, et pour ceux qui n'ont pas encore lu les autres, vous avez la chance parce que vous pouvez encore les découvrir à nouveau. Hein, nous, on les connaît donc. On n'a pas cette chance, mais on a la chance de découvrir les Rossignols. Le Rossignol très, très bientôt. Donc, Angèle, j'ai envie de te souhaiter énormément de succès pour ce roman. De faire en sorte qu'il explose tous les pronostics. Parce que tu m'as énormément touchée aujourd'hui. Je crois que Cécile, c'est pareil. C'est, comme tu disais, on a eu une Angèle, différent de celle qu'on connaît, et c'est ça qui est génial sur le podcast.
Ouais, merci, c'était un plaisir partagé. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup Angèle, merci beaucoup à tous nos auditeurs. Et Angèle, je te laisse le mot de la fin.
C'était Angèle Lyon, et vous avez écouté Chapitre 2.
Chapitre 2.